VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 15 février 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a accepté de quitter le pouvoir.
Au Togo, l'archevêque émérite de Lomé demande au président Faure Gnassingbé de ne pas se représenter en 2020.
Au Mali, 10 djihadistes présumés tués hier dans une opération de la force française Barkhane.
En Égypte, arrestation d'un autre opposant au président Abdel Fattah al-Sissi, candidat à sa propre succession en mars.
Morgan Tsvangira, chef du principal parti d'opposition au Zimbabwe, est décédé à 65 ans des suites d'un cancer.
Une nouvelle fusillade fait des morts dans une école des États-Unis.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Jacob Zuma a quitté le pouvoir. Après avoir laissé planer le doute, le président sud-africain a finalement décidé de se plier aux injonctions de son parti, le Congrès national africain. Il a annoncé tard dans la soirée de mercredi sa démission avec effet immédiat, sans attendre la motion de défiance prévue jeudi au Parlement. De Johannesburg, notre correspondante Patricia Huon fait le point.
Une page se tourne en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a officiellement annoncé sa démission. Dans une allocution à la Nation, il a dit qu'il se voyait contraint de quitter le pouvoir. Il a remercié l'ANC, une organisation qu'il a, a-t-il dit, servi toute sa vie et continuerait de servir. Il a cependant répété qu'il n'était pas d'accord avec la décision prise par les dirigeants du parti. Néanmoins, Jacob Zuma a fini par dire qu'il respecterait l'injonction de l'ANC et la Constitution. Quelques heures auparavant, dans une interview donnée à la télévision publique sud-africaine, Jacob Zuma avait tenté de se défendre. Il a dit que les raisons pour lesquelles on lui demandait de quitter son poste ne lui avaient pas été communiquées. Il a ajouté qu'il aurait voulu se voir accorder un délai, au moins jusque juin, afin d'assurer la transition. Jacob Zuma se sera obstiné presque jusqu'au bout, mais il a finalement suivi l'ordre donné par son parti. L'ANC n'aura pas besoin de forcer sa destitution par le vote d'une motion de défiance au Parlement. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
Au Togo, l'archevêque émérite de Lomé se prononce sur la crise politique que traverse le pays. On rappelle qu'il a dirigé le Parlement de la transition dans ce pays. Il est intervenu à la veille du dialogue politique qui s'ouvre ce jeudi. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
C'est dans un document de 27 pages que l'archevêque émérite de Lomé demande au chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, de ne plus se représenter en 2020. Après une analyse de la situation politique au Togo depuis 1990, Monseigneur Philippe Fanouko Kodjo exhorte la classe politique togolaise à ne plus commettre les mêmes erreurs. Ceci étant, l'archevêque émérite de Lomé dit être favorable à la réhabilitation de la constitution de 1992 et le départ de Faure Gnassingbé à la fin de son mandat actuel.
J'appuie tout ce qu'il demande, qu'il s'en aille. Il doit plus renouveler son mandat. Je ne dis pas qu'il quitte aujourd'hui, non. Qu'on le laisse finir le mandat en cours. Mais en 2020, non. L'entêtement à ne pas quitter le pouvoir, c'est diabolique.
Notons que c'est ce 15 février que s'ouvre à Lomé le dialogue politique sous la médiation du Ghana et de la Guinée. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Mali, 10 djihadistes présumés ont été tués dans une attaque de la force française Barkhane dans la zone de Tenzawaten à la frontière Mali-Algérie. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Les djihadistes et terroristes ont les champs libres dans la vaste zone désertique de Tenzawaten. Mais la matinée de ce mercredi a été fatale pour certains d'entre eux. Parce qu'une opération menée par l'armée française a été signalée à Inagawalex, à quelques centaines de kilomètres de la frontière algérienne. Les bombardements ont débuté aux environs de 4h du matin et ont pris fin à 5h du matin. Il y a eu des échanges de tirs nourris avec des armes lourdes et automatiques au sol. Des véhicules ciblés ont été bombardés. Face à l'intensité des armes, certains djihadistes et terroristes ont pris la fuite. Le bilan est de 10 morts du côté des djihadistes. 3 véhicules, dont 2 pick-up et 1 camion, ont été détruits. Selon des sources locales, les véhicules détruits appartiennent à Nosra al-Islam wal-Muslim Djihad Agali. L'opération de la force Barkhane visait un commandement de ce groupe terroriste qui accompagnait avec ses hommes une cargaison d'armes et de munitions vers un sanctuaire à la frontière Mali-Algérie. Après cette attaque ciblée, la vaste zone de Tezawatène a été survolée par les avions militaires français qui sont basés actuellement à Tessalit, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'émissaire de l'ONU pour la Guinée-Bissau, Modibo Ibrahim Touré, a appelé hier le Conseil de sécurité à réclamer au plus vite des élections législatives en Guinée-Bissau, pays en crise politique depuis que le président José Mario Vaz a limogé en 2015 son premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du PIGC au pouvoir et auquel appartient également M. Vaz.
En Égypte, la police a arrêté hier Abdelmoneim Aboul Foutou, un dirigeant d'un parti politique fort critique du gouvernement, ainsi que 5 de ses adjoints. C'est ce qu'indiquent des sources des services de sécurité cités par l'AFP. La raison de l'arrestation de M. Foutou, candidat à l'élection présidentielle de 2012, restait inconnue dans l'immédiat. On rappelle qu'il avait lancé un appel, tout comme d'autres figures politiques, à boycotter la présidentielle de mars, pour laquelle le chef de l'État sortant est candidat à sa propre succession.
Au Mozambique, plus d'un million d'habitants de Maputo, la capitale, ont été privés d'eau potable hier. Une sécheresse persistante a contraint les autorités à restreindre drastiquement l'approvisionnement en eau, Morgane Guériec.
Maputo et les banlieues de Matola et Boané ne reçoivent plus que 40% de leur volume normal d'eau potable, a annoncé Casimiro Abreu, un responsable du Centre national de gestion des situations d'urgence. Le barrage qui approvisionne les 4 millions d'habitants de la région n'est plein qu'à 19% de sa capacité. Il a ajouté que l'eau du fleuve Umbelezi est maintenant réservée en priorité à l'agriculture et à la production d'électricité. L'Afrique australe a subi depuis des mois une très forte sécheresse aggravée par le phénomène El Niño. Le Cap en Afrique du Sud est plus gravement affecté. Cette ville est menacée d'une rupture d'approvisionnement d'eau du robinet. Pretoria a d'ailleurs proclamé l'état de catastrophe naturelle dans tout le pays. La Namibie aussi est sévèrement touchée. À cause des mauvaises récoltes, des milliers de soldats sont envoyés en congé en février parce que l'armée n'a plus d'argent pour les nourrir.
Au Zimbabwe voisin, le chef du principal parti d'opposition est décédé à 65 ans des suites d'un cancer. Morgan Tsvangirai était un adversaire farouche du régime de l'ex-président Robert Mugabe. Portrait d'un opposant historique avec Jacques Aristide.
Morgan Tsvangirai est né le 10 mars 1952 à Gutu, dans la province de Mazvingu. D'origine très modeste, il est devenu l'une des personnalités politiques les plus influentes du Zimbabwe. Leader du Congrès des syndicats du Zimbabwe en 1988, il a mené plusieurs grèves qui l'ont mis au devant de la scène. Il finira par transformer la ZATU en parti politique en 1999. Le mouvement pour le changement démocratique a pour objectif de déloger Robert Mugabe du pouvoir. Son combat va durer plus de 20 ans avec un pic en février 2009 où Tsvangirai accède au poste de Premier ministre du Zimbabwe. Il s'est présenté à 2 élections présidentielles remportées par Mugabe. Il a connu plusieurs fois la prison. Il y a 2 ans, M. Tsvangirai avait révélé qu'il souffrait d'un cancer du côlon pour lequel il effectuait de nombreux séjours médicaux dans des hôpitaux sud-africains. Hier, comme par prémonition, M. Tsvangirai a cédé la place à la tête du MDC à l'un des 3 vice-présidents, Nelson Chamisa. Il laisse un parti extrêmement divisé qui se déchire depuis des mois en vue de sa succession alors que le pays doit tenir une élection présidentielle cette année.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle fusillade dans une école ici aux États-Unis. Un jeune homme armé d'un fusil semi-automatique a fait 17 morts et 16 blessés le jour de la Saint-Valentin dans un lycée du sud-est de la Floride avant d'être interpellé Semant la panique parmi les élèves retranchés dans leur classe ou tentant de s'échapper. Cette fusillade est l'une des pires aux États-Unis depuis 25 ans.
Le suspect, identifié comme étant Nicholas Cruz, un ancien élève de 19 ans, renvoyé du lycée Marjorie Stoneman Douglas de Parkland pour des raisons disciplinaires, a été arrêté plus tard dans la localité proche de Coral Springs, selon le shérif du comté de Broward, Scott Israel. Il a indiqué que l'arme utilisée était un fusil d'assaut semi-automatique AR-15, qu'il est très facile de se procurer dans la majeure partie des États-Unis.
L'ONG Médecins sans frontières a dévoilé hier avoir recensé 24 cas de harcèlement ou abus sexuels en son sein en 2017, et ce en plein scandale des accusations de viol et de recours à des prostituées au sein de l'ONG Oxfam qui éclabousse tout le secteur de l'humanitaire. Autre affaire révélée hier, l'ONG International Rescue Committee, basée à New York, a reconnu avoir elle aussi eu à déplorer 3 cas d'abus sexuels en République démocratique du Congo, tout en assurant avoir fait le nécessaire en saisissant la police et en renvoyant le personnel impliqué.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le Parlement du Royaume-Uni a gelé 800 millions de dollars d'actifs des proches de Joseph Kabila. Le secrétaire d'État au Trésor chargé de l'économie, John Glenn, a dit que des chefs de milice, des cadres de l'armée et des organisations privées liées au régime Kabila sont essentiellement visés. Londres a agi dans le cadre des sanctions imposées par l'ONU. Le Tchad reçoit de la Suisse un appui de 107 millions de dollars pour la mise en application de sa nouvelle stratégie de coopération 2018-2021. Elle s'articule autour de 3 axes principaux, le domaine de la citoyenneté, de la paix et de la prévention de la violence, de l'éducation de base et de la formation professionnelle, et enfin de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Près de 26 milliards de dollars en Algérie échappent au circuit officiel et s'évapore dans le marché parallèle. La Banque centrale envisage une nouvelle instruction qui permettra de tracer le mouvement des capitaux et d'identifier leur origine. La Chine offre à la Tanzanie une université spécialisée dans les transports. Sa construction va coûter 62 millions de dollars. Dar es Salaam vise à augmenter le nombre de professionnels de l'aviation. Le pays comptait 183 pilotes locaux en 2012, contre une demande de 456.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Real Madrid, vainqueur du choc en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain.
Et oui, le Paris Saint-Germain qui s'est incliné 3 buts à 1 sur le terrain du Real Madrid à Santiago Bernabéu hier soir en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après avoir ouvert le score, les Parisiens ont été punis par un doublé de Cristiano Ronaldo et un but de Marcelo. C'est une grosse désillusion pour le Paris Saint-Germain qui s'était avancé avec l'ambition de frapper un grand coup chez le double tenant du titre. Il faudra faire la différence dans 15 jours au Parc des Princes.
Liverpool presque déjà en quart de finale.
Balade de santé pour les Reds qui sont allés l'emporter 5-0 à Porto grâce notamment à un triplé du Sénégalais Sadio Mané mais aussi un but de l'Égyptien Mohamed Salah. C'était hier soir à l'Estadio do Dragão.
L'Europa League ce jeudi.
Les grosses écuries européennes ont dans l'ensemble des adversaires à leur portée ce jeudi lors des 16e de finale aller de l'Europa League qui compteront tout de même 2 affiches, Naples contre Leipzig ou encore Lyon, Villarreal. Parmi les grosses équipes, le Milan AC et Arsenal ont des déplacements largement à leur portée chez les Bulgares du Ludogorets et les Suédois d'Östersund. L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann se rendra sur le terrain du FC Copenhague. Quant à Dortmund, le club allemand reçoit l'Atalanta Bergame et le Celtic Glasgow attend le Zénith Saint-Pétersbourg.
Suite des Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud.
L'Allemagne, première du tableau des médailles avec 7 médailles en or, suivie des Pays-Bas, 5 médailles dorées, une de plus que les États-Unis, troisième du podium. La Nigériane Simidiela Adeagbo termine dernière de sa série hier de qualification du skeleton en 55 secondes et 85 centièmes. À suivre ce jeudi au slalom, la Kenyane Simader. Allez Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Détroit et Atlanta 104-98, Charlotte et Orlando 104-102, Philadelphie et Miami 104-102. Indiana et Brooklyn 108-103, Washington et New York 118-113, LA Clippers et Boston 129-119, Toronto et Chicago 122-98, Houston et Sacramento 100-91, Oklahoma City et Memphis 121-114, La Nouvelle-Orléans et LA Lakers 139-117.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Afrique du Sud s'apprête à accueillir aujourd'hui son nouveau président, Cyril Ramaphosa, 65 ans, au lendemain de la démission de son prédécesseur Jacob Zuma au terme de plusieurs semaines d'un féroce combat avec son parti, le Congrès national africain. Éclaboussé depuis des années par les scandales de corruption, M. Zuma a mis fin tard mercredi soir à son règne de 9 ans à la tête du pays en obtempérant aux ordres de son parti qui le menaçait d'un vote de défiance au Parlement. Pour discuter de ce développement, j'ai contacté à New York le professeur Mamadou Diouf de Columbia University. Je lui ai d'abord demandé si la démission de Zuma était due à ces questions de corruption ou à de simples calculs politiciens pour ne pas perdre les prochaines élections.
Je pense que ces deux questions sont liées. Effectivement, la perte de pouvoir de Zuma est le résultat de la saga qui a, dans une certaine mesure, accompagné son arrivée au pouvoir, marquée par des épisodes de corruption, mais aussi des épisodes de malgouvernance qui ont amené progressivement l'ANC à prendre position pour effectivement ne pas perdre le pouvoir. Même si, en fait, malgré tout ce qui s'est passé, on peut dire que l'ANC conserve une espèce de majorité qui s'est effritée, mais qui probablement pourrait survivre une dizaine d'années.
Quand on voit ce qui s'est passé en Afrique australe récemment, il y a aussi Robert Mugabe qui a été écarté par son propre parti, en fait, ses propres hommes, littéralement. Alors qu'est-ce que ça signifie pour le développement de la démocratie en Afrique?
Les deux situations sont différentes. Première chose qui est très importante de souligner, c'est que l'Afrique du Sud a une culture politique publique et des institutions qui ont toujours assuré un fonctionnement normal. L'élimination de Zuma est le produit, si vous voulez, de luttes politiques, mais aussi de confrontations qui se sont passées dans un cadre légal, le cadre du parti. Au Zimbabwe, la différence, c'est que c'est un système qui s'est retrouvé en danger depuis plusieurs années avec des crises multiples, y compris plusieurs crises électorales qui ont été arbitrées par un recours à la violence. Et ce qui a amené la destitution de Mugabe, c'est-à-dire sa démission, c'est cette pression qui mettait en danger le pouvoir de la classe dirigeante avec, disons, l'ambition de sa femme de lui succéder et l'élimination des différents prétendants.
Il y a aussi quand même un problème de fond en Afrique du Sud. La majorité noire, la population est plutôt impatiente parce que les changements qu'elle attendait depuis la chute de l'apartheid ne semblent pas tellement sur le plan économique se matérialiser.
Cela est vrai. Et en fait, paradoxalement, Zuma est arrivé au pouvoir parce qu'il semblait représenter cette demande, parce qu'il avait une culture public qui était plus proche de la culture de ces masses-là. Ils semblaient exprimer leur demande face à un béquille dont la démarche politique se situer dans la continuation de la démarche de Mandela, c'est-à-dire la réconciliation plutôt qu'une réforme économique.
Et Cyril Ramaphosa est-il l'homme de la situation?
Il a une expérience dans les deux domaines qui sont les domaines qui semblaient en conflit en Afrique du Sud. Il a été le secrétaire général de la COSATU et un très, très grand syndicaliste et activiste politique. Il a eu une réussite d'entrepreneur extraordinaire. Donc, il a deux expériences qui, en fait, lui permettent à la fois d'engager le dialogue avec les entrepreneurs, mais aussi d'engager le dialogue avec les travailleurs.
Le professeur Mamadou Diouf de Columbia University à New York.
Dans Washington Forum, ce jeudi 15 février. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'ANC, exige la démission du président Jacob Zuma, dont le second mandat prend fin en 2019, mais il refuse de démissionner. Pourquoi était-ce si difficile pour l'ANC de décider du sort de Jacob Zuma, malgré son implication présumée dans de nombreuses affaires de corruption? Le parti au pouvoir va-t-il survivre? Qui peut incarner ce qui reste de l'héritage de Nelson Mandela? Quel impact sur l'avenir de l'Afrique du Sud? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Gérondin et ses invités.
Au Nigeria, début aujourd'hui du déploiement de l'armée dans les États du centre pour mettre fin aux violences entre agriculteurs et éleveurs. Il va se poursuivre ce développement jusqu'au 31 mars. L'objectif est non seulement d'enrayer les affrontements entre éleveurs et paysans, mais aussi les attaques de milices armées contre les populations, en particulier dans les États de Benue, Taraba et Nasarawa, États qui ont connu une escalade de la violence ces dernières semaines. Le point avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Le Nigeria fait face depuis plusieurs années à une insurrection sanglante de Boko Haram dans le nord-est, du militantisme dans le delta du Niger, de l'enlèvement d'étrangers et des agitations du mouvement Biafra. L'armée est maintenant mobilisée pour mettre un terme aux affrontements entre agriculteurs et éleveurs peuls dans les états du centre du pays. Pour Awal Moussa Rafsanjani, activiste des droits humains, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent ces violences.
Je pense que cette affaire des éleveurs est devenue comme une plateforme ou un moyen derrière lequel se cachent certaines bandes criminelles pour perpétrer leurs crimes, parce que, comme on le dit, les agriculteurs et les éleveurs ont toujours cohabité, ils ont eu des problèmes et des désaccords, mais cela n'a jamais été dans la violence.
En plus de la crise entre agriculteurs et éleveurs, l'envoi de soldats doit également permettre de lutter contre le banditisme armé dans d'autres états comme Kaduna. Le général David Amadou est chargé des opérations d'entraînement de l'armée nigérienne.
Il y a également des cas de banditisme, d'enlèvement. Il y a le problème des éleveurs à Kaduna. Il y a d'autres crimes dans l'état de Kogi, de même que les affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Il y a des attaques contre les innocents dans les communautés, en particulier dans les états de Benue, Taraba et Nasarawa, par des milices armées.
Si l'armée n'a pas précisé les effectifs militaires qui doivent être déployés dans le centre du pays, les Nigériens réagissent différemment à la décision du gouvernement.
Mais les éleveurs tuent et le président ne dit rien. Cela n'est pas juste. Je suis vraiment déçu de l'attitude du gouvernement. Mais je salue la décision de déployer les militaires. Ces soldats doivent être proactifs et éviter le racisme et les considérations religieuses. Qu'ils rejettent le népotisme et le système du tribalisme, mais qu'ils travaillent pour tout le monde. Je pense que ce n'est pas la meilleure idée de déployer les soldats, mais de toutes les façons, nous avons besoin de la paix partout dans le pays, parce que les exécutions sont devenues récurrentes, et cela est très clair.
Des centaines de personnes ont été tuées dans des violences intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs depuis le début de l'année, dont le seul état de Benue étant le plus affecté, où un enterrement de masse a été organisé pour 73 personnes tuées dans ces violences en janvier dernier. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les nouvelles sont bonnes pour les fonctionnaires, du moins si l'on en croit les organisations syndicales. Après une année 2017 marquée par des accrochages avec le gouvernement, la nouvelle année s'annonce sous de meilleurs auspices. Au micro de Jean-Roger Bion, Théodore Nyanya Zadi, le président de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, explique les avancées dans leurs revendications.
À la fin de ce mois de janvier, la plupart des points de revendication ont commencé à être appliqués par le gouvernement, notamment la bonification indiciaire de 100 et 150 points qui correspondent environ à des augmentations de salaire de 23 à 40 000 francs CFA qui ont été réalisées pour les 41 000 fonctionnaires non bénéficiaires d'une grille particulière. Ensuite, le solde des arriérés qui a été à la base de toutes les crises depuis 2013 et point d'orgue de la grève de 2017. Là aussi, le gouvernement a démarré le paiement par les montants les plus faibles, notamment les montants compris entre 1 et 500 000 francs CFA, correspondant à environ 18 000 fonctionnaires, ont commencé à être payés par le gouvernement. Et ainsi de suite, le reste sera payé tout au long de l'année et on reprendra l'année prochaine jusqu'à ce que ces 250 milliards soient apurés.
Apparemment, le gouvernement est allé au-delà de vos espérances puisqu'il a intégré dans les points de satisfaction les journaliers et les retraités.
Oui, oui, c'est cela. On avait également arrêté qu'en 2017, 900 journaliers soient intégrés sur les 1800 concernés. Effectivement, le concours a été lancé en janvier dernier, 2018, et nous attendons, les résultats de ces concours pour que les 900 premiers journaliers soient intégrés. Les retraités aussi, notamment sur la question de la réforme de la retraite qui avait choqué tout le monde, le gouvernement a fait marche arrière et a adopté donc une nouvelle réforme qui a commencé à être mise en œuvre, et notamment plus de 2000 veuves orphelins ont commencé à bénéficier donc des retombées de cette réforme-là. Donc on peut dire que sur l'ensemble des 5 points de revendication que nous avions, le gouvernement a commencé à mettre en œuvre l'ensemble des points. Notre seule, insatisfaction, c'est au niveau des libertés syndicales, où il y a encore quelques soucis dans certains ministères. Par exemple, certains de nos camarades qui avaient été frappés par des mesures de rétorsion en janvier 2017 lors de la grève, à ce jour n'ont pas encore été réintégrés dans leurs fonctions.
Alors globalement, est-ce qu'on peut dire que l'année 2018 en Côte d'Ivoire sur le front social sera paisible?
Pour nous en tout cas, puisque nous avons en même temps dans la foulée signé un protocole d'accord portant sur une trêve sociale de 5 ans. Donc dans cette relation avec le gouvernement, chacun jouant sa partition, le gouvernement ayant commencé à appliquer sa part de responsabilité, notre rôle à nous c'est de maintenir la paix sociale sur le front social. Et on peut le dire depuis pratiquement les dernières grèves de janvier, à ce jour, les syndicats ont montré leurs responsabilités et le front est calme. Et nous pensons le maintenir ainsi jusqu'à ce que, n'est-ce pas, bien sûr, tout se passe bien.
Théodore Nyanya Zadi, président de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Dans le nord du Sénégal, la langue de Barbarie est une bande de terre au confluent de l'océan Atlantique et du fleuve Sénégal. Cette zone est aujourd'hui menacée par l'avancée de la mer. À Saint-Louis, 440 maisons affectées par l'érosion côtière seront déplacées. Leurs occupants seront relogés par les autorités. Le quartier Guetnard est l'un des plus touchés par ce phénomène qui menace le cadre de vie de ses habitants, mais surtout l'avenir de leurs enfants. Reportage de Seydina Abagay.
À Guetnard, les populations vivent difficilement l'avancée de la mer. Au-delà des lieux d'habitation, les deux seules écoles que compte le quartier sont menacées par les eaux, comme l'affirme Arun Ndiaye, président de Guetnard et président de l'association des parents d'élèves.
Mais on vit ça très difficilement. D'abord, avant de parler des écoles, presque toutes nos maisons sont détruites, ces graisses sont menacées. Il y a un problème des berges. On avait là-bas vraiment des écoles coraniques. On les a détruites. C'est normal, peut-être qu'il y avait des travaux à faire. Okay? Il nous reste maintenant l'école publique, l'école française, comme on dit chez nous. Si vraiment on détruit une partie de l'école, mais ça va nous porter préjudice, pas à moi, mais à nos petits-enfants. Ils ont des problèmes pour se déplacer, ils ont des problèmes de classe.
Pour Arun Ndiaye, l'érosion côtière impacte négativement l'éducation des enfants et favorise l'abandon de l'école pour le métier de pêcheur.
Les élèves de Guendal, on a réussi à les maintenir à l'école, mais c'est la perdition totale. Parce que l'enfant guendalien, il est productif à l'âge de 10 ans. S'il n'a pas l'école, il y a la mère. Nous avons essayé, réussi depuis 2005 à les conserver. Et maintenant, voilà, s'ils n'ont plus de classe, s'ils ne font qu'alterner, ils vont retourner en mer et ça, c'est très négatif.
Présente à Saint-Louis depuis plus de 35 ans, l'ONG Le Partenariat apporte un soutien considérable dans la protection de l'environnement. Nicolas Dupuis, directeur de la structure, estime que l'implication des habitants de Guendar est capitale dans la lutte contre l'érosion côtière.
Sur cette partie-là, alors ces problématiques qui sont des problématiques extrêmement graves et importantes pour Saint-Louis, on essaye d'appuyer la mise en place de cadres de concertation, de renforcer aussi les capacités des acteurs en leur proposant des sensibilisations et des formations, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives aussi qui peuvent être menées par les populations elles-mêmes. On a mené des actions de reboisement dans l'aire marine protégée de Saint-Louis. Ce sont des jeunes du quartier de Guendar et d'Hydrobase qui sont venus faire les actions de reboisement et qui continuent à travailler avec le service des eaux et forêts, avec l'air marine protégée pour préserver leur environnement.
En attendant les 15 millions d'euros promis par la France, l'État du Sénégal a entamé des travaux contre l'érosion côtière avec un budget de 4 milliards de francs CFA. Cette somme servira à la construction d'une digue de protection le long de la langue de Barbarie. À Saint-Louis, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console d'Earl Smith, un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.